Bienvenue à tous sur votre émission préférée, il est l'heure Monseigneur, on est content de vous retrouver pour la 4e saison déjà. Alors je suis aujourd'hui avec Josiane, bonjour Josiane.
Salut tout le monde.
Et avec Jean-Jacques, bonjour, bonjour Jean-Jacques.
Bonjour, bonjour.
J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bel été?
Oui.
Bon.
Chaud, oui.
Ok. J'ai l'impression qu'on va les faire parler un petit peu dans l'émission. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e saison. Alors, on fait un tout petit peu évoluer le format de l'émission, à savoir qu'on a abandonné l'année mystère, mais on va vous proposer cette nouvelle saison de trouver des personnages mystères. Alors, pour le premier personnage, on va dire que c'est une grosse tête, une grosse tête. Hein. Vraiment, je lui arrive pas à la cheville. Et puis, on va écouter des chansons qu'il a pu entendre tout au long de sa carrière, à commencer par la chanson de Edith Piaf, La vie en rose, la version de 1947. Premier indice, il avait 20 ans. Voilà, à tout de suite.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. Mais lui, pour moi, pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. T'appelles-toi, alors je sens dans moi mon cœur qui
Alors, les uns et les autres, est-ce que ça vous inspire un petit peu cette chanson de 1947
je me suis laissé aller au plaisir de l'écouter, simplement.
Donc, très justement, il avait 20 ans en 47, donc il est né en 1927, notre personnage. Alors, c'est pas la reine d'Angleterre, je vous le dis
alors,
tout de suite.
Alors, tu dis, il est né, il était né ou il est né?
Alors, il est né qu'une fois.
Et il est décédé plusieurs fois.
Peut-être dans les fictions. Je ne connais pas suffisamment.
Être encore en vie, hein.
La réincarnation.
Ouais. Bon. Est-ce qu'il était politique, Raphaël?
Pas à ma connaissance. Non, vraiment, c'était un comédien.
Un acteur.
Voilà, un comédien, un acteur, un personnage de radio,
télévision
et de théâtre.
Honnêtement,
il a tout fait.
Est-ce que c'était plutôt rigolo?
Oui, c'était plutôt rigolo.
Initiale FB?
Non, mon capitaine.
il était pourtant.
On a dû alors le.
Mais on va en parler un petit peu plus tard.
On a dû le voir au théâtre ce soir, alors. Très certainement.
Bah, tu me le diras peut-être tout à l'heure.
Plein de questions à poser.
Dans la nouvelle saison, on essaiera d'avoir des invités. Alors aujourd'hui, on est un petit peu en comité restreint. On attend toujours d'ailleurs notre compère Ricardo, hein, qui nous a pas lâché cette saison, mais qui, comme à son habitude, se fait désirer. Ricardo, on t'attend. Et donc, effectivement, on essaiera d'avoir des invités tout au long de l'année. Donc, les uns et les autres inviteront les associations, les acteurs.
Donc, ça veut dire aujourd'hui, on parle de nous, quoi.
Voilà, les invités, c'est nous aujourd'hui. Hein, exactement. Donc, Josiane, ton été, toi, comment il s'est passé?
Alors, mon été, d'abord, j'ai eu chaud. Je me suis un peu cloîtrée comme avec le Covid. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait comme ça. Voilà, et puis une petite escapade de bien-être quelque part, donc ça fait du bien, quoi. Mais bon, plutôt cloîtré avec la chaleur.
T'as vécu la nuit, quoi, comme dans ta jeunesse.
Alors la nuit, oui, des nuits chaudes.
Je veux pas plus de détails, Josiane.
Non, mais c'est tout. Je n'irai pas plus loin.
Et toi, Jean-Jacques?
Moi, j'ai pas trop bougé. Bon, on a circulé un petit peu, fait du vélo, de la marche, pas trop parce que en plein après-midi.
La chaleur,
donc
ouais.
Le soir, par contre, beaucoup de sorties après dîner, hein, pour respirer un petit peu. Et puis j'ai passé 4-5 jours en Normandie.
Bon,
c'était un peu plus frais, enfin un peu moins chaud.
Des petites escapades, donc.
Oui.
Ok.
T'as été voir tous les sites normands.
C'est ce que j'allais faire.
Les cimetières américains,
voilà.
les cela.
Plages de Normandie,
oui,
absolument.
Oui, oui, oui. Débarquement.
C'est impressionnant. Voilà. Hein. Mais ouais. C'était la deuxième fois, ou troisième fois, je sais plus. Ouais. Mais alors, et c'est marrant parce que ce que tu me demandes, évidemment, c'était mon but principal. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de revoir tout de suite dans la foulée le jour le plus long.
Ah, bien sûr.
Et oui, c'est forcément.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis tous les documentaires.
Mais alors, t'étais vers Cherbourg, tout en haut, ou tu t'es resté en bas?
Alors, oui, on est monté jusqu'à Cherbourg, absolument. On a fait tout le Cotentin, quoi.
D'accord.
Et on a terminé par quoi? Le Mont Saint-Michel.
Ah, bah, évidemment.
Qui est la limite entre
alors,
la Bretagne.
Alors, il est en Normandie ou en Bretagne?
Voilà, comme tu dis, ouais. Et en fait, ce qui est absolument dingue, c'est qu'en fait, je me disais, bon, on va aller peut-être dans les petites rues, on va monter comme on avait l'habitude.
Oui.
Oh non, impossible.
Oh, non, il y avait trop de monde.
Ah! Et puis alors, j'ai filmé tout ça, j'ai regardé, parce que pour mémoriser ça, t'avais pratiquement personne qui avait le masque. Et là, je veux dire que là.
Ah oui!
Quand même, parce que c'était vraiment.
Une promiscuité comme ça.
Ah, mais c'était à se bousculer, quoi.
Ça veut dire que tous les touristes sont revenus au final au Mont Saint-Michel.
Écoute, si c'est pas vrai, il y avait du monde.
Est-ce que t'as été manger l'omelette de Mère Poulard?
Non. Oh non, il y avait des files d'attente. On est passé devant, oui, absolument. Comme de toute façon, c'est dès l'ouverture, il y a quelque chose.
Bien sûr.
Dès l'entrée.
Bon, alors bah, ça nous permet de dire effectivement qu'aujourd'hui le Covid, même s'il est toujours présent, les mesures se sont grandement allégées, ce qui nous soulage un petit peu. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on soit revenu à la fréquentation antérieure au Covid.
On n'est pas tiré d'affaire. Hein.
Ouais, ouais. Et j'ai envie de dire, restons raisonnables et prudents. Maintenant, effectivement, dès qu'on se sait un petit peu à contact, eh bien, faut peut-être limiter tout simplement
nos interactions. Il y a un certain nombre d'établissements. Moi, je vais voir des amis qui sont en établissement EHPAD ou autre. Il est toujours demandé assainir les mains et porter un masque.
Mmh. Ouais. Alors, les invités, c'est nous cette année, on a dit, mais enfin cette saison, pardon. Non, cette émission, je vais y arriver. Désolé. D'habitude, je coupe. Donc les invités, c'est nous, cette émission. On invite aussi toutes les personnes qui seraient sujettes à nous faire des présentations d'accompagnement de public senior, puisque notre émission s'appelle Il est l'heure Monseigneur, et c'est bien vous qu'on espère servir, à nous contacter, parce que on a besoin de faire connaître toutes les initiatives qui sont faites avec et pour les seniors. On a reçu beaucoup d'acteurs jusqu'à présent de l'accompagnement des personnes, que ce soit des associations, des entreprises, des particuliers. On a vu des belles choses. Et qui est-ce qu'on n'a pas reçu au final?
Ah, tu me prends un peu de cours, mais il y en a quand même encore un certain nombre qu'on n'a pas rencontré. Hein.
Non, on n'a pas reçu de politique, Monsieur Macron, si vous nous entendez.
Celui qui est devenu ministre.
En ce moment, je pense pas qu'il pourrait être là, à l'heure qu'il est. Hein.
Mais Monsieur Béchu, on ne l'avait pas reçu non plus. Pourtant, on l'a souvent vu dans notre association. Hein. Oui, Chaque fois qu'on a fait des choses, il disait présent. Hein.
Mais il est concerné effectivement par la cause.
Ah d'accord.
Et je pense que on a ce privilège d'avoir eu un maire à l'écoute.
Oui, alors, ouvert.
On n'a pas toujours gain de cause sur tout ce qu'on espère, mais je crois qu'il avait cette capacité d'écouter en qualité de maire.
Il était présent, oui.
Ricardo, comment vas-tu? Ah ben non, il n'est pas là, pardon. Ricardo. Bon, on va passer à la deuxième chanson, si vous voulez bien, et puis on va essayer d'aller un petit peu plus sur le terrain de notre personnage mystère. Donc, souvenez-vous, il est né en 1927. Je dévoile un petit peu.
C'est un homme, voilà.
C'est un homme qui a fait un peu tous les arts, théâtre, musique, non pas musique, pardon. Chansons, il a été comédien beaucoup, donc voilà. On va écouter tout de suite Le coin de rue de Charles Trenet par Micheline Dax.
Ça c'est
oui, c'est alors, étonnant.
Mais ça aussi,
j'aurais jamais pensé qu'elle chantait.
Alors ça pourrait être un indice, hein, je vous le dis. à vous de trouver pourquoi, comment.
Oui, c'est vrai que c'était une excellente siffleuse. Hein.
À tout de suite.
Soir où le cœur sans espoir.
je crois que j'ai réussi à surprendre Josiane et Jean-Jacques qui ne connaissaient pas cette version a priori. Bon, Micheline Dags, vous pouvez nous en parler un petit peu?
Ah ben moi, je la connais surtout à travers des pièces de théâtre. Puis c'était une actrice très très enjouée. Donc c'était avec des chansonniers aussi, tout un tas de choses. C'est comme ça que je me souviens d'elle.
Moi, dans ma tête, je la vois grande, bien droite, avec un très brune, avec des cheveux un peu en choucroute, quoi. Et surtout toujours un petit air pincé, mais un peu pincé, mais pour faire rigoler, quoi. Je veux dire,
pincé libéré.
Voilà.
Bon, oui, parce que c'était, excuse-moi, mais je rebondis, parce qu'effectivement, les coiffures des femmes, c'était les coiffures choucroutes, hein, des gros crépages.
D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus d'intoxication avec la laque, moi, personnellement.
Ah, je ne te fais pas dire.
Il en fallait beaucoup pour que ça tienne, parfois.
Ouais, alors, parce que j'étais pas de bonne qualité, c'est pour ça.
Donc, Micheline Dax, moi, j'ai un mémoire d'enfant, puisque je n'ai pas votre âge, désolé. Hein, mais c'est vrai que c'était une siffleuse aussi, Micheline Dax. Oui. Hein, elle avait ce talent-là.
C'était extraordinaire.
Hein, ah oui, vraiment très bonne.
Et elle a même enregistré des disques. Tu as peut-être ça dans ta collection, Jean-Jacques?
Non, mais par contre, moi, je l'associe souvent avec Jacques Baudouin. Jacques Baudouin,
ah,
qui était un imitateur, un comédien, bien sûr, hein, assez rigolo aussi, hein, vraiment. Il faisait de la scène, un petit peu comme Robert Lamoureux, des choses comme ça.
Ah bah, précisément, je pense qu'on est dans la bonne époque. Là, ouais,
hein, il faisait de la radio aussi, c'était Je vous salue, mesdames.
D'accord.
Il y avait tout un tas de
choses. Il a fait beaucoup de doublages.
Ah oui.
Beaucoup de
doublages. Il a prêté sa voix.
De dessins animés.
Joker. Je ne le connais pas. Jacques Baudouin, tu dis.
Oui. Jacques Baudouin.
Oui, Jacques
alors,
Baudouin.
Je pense que ça s'écrit B-A-U.
D'accord. Et un exemple de doublage?
Je sais pas.
Non, parce que je pense qu'ils ont fait des doublages tous les deux d'ailleurs.
D'accord.
Hein? Alors, c'était en fait souvent les dessins animés, mais ce qui passait à la télé.
D'accord.
Hein? Vous vous rappelez de Calimero?
Oui.
Hein? Bon, ben, ce genre de dessin animé, quoi.
D'accord. Eh oui. Alors, on va parler un petit peu du personnage mystère. Je vous ai dit qu'il était né en 1927. Je peux vous dire que c'était vraiment une grosse tête, hein, parce qu'il a des talents multiples. Il a été homme de théâtre. Il a plus d'une trentaine de pièces à son actif entre 1949 et 1980.
Mais il a joué ou il les a écrits?
Il les a joués. À la télévision, alors là, moi, il y a une émission que j'aimerais bien dont vous me parliez un petit peu parce qu'il y est intervenu en 1985, les 5 dernières minutes.
Ah bah oui, ça, bien sûr.
Alors, les 5 dernières minutes, il a été dans un rôle secondaire, hein, c'était pas un rôle principal, c'était pas le commissaire Cabrol et Ménardo, hein, respectivement interprétés par Jacques Debary et Marc Ayrault. Donc c'était pas les personnages principaux.
Et c'était les 5 dernières minutes,
voilà.
Deuxième période.
Ah bah
parce
oui,
que la
c'est
première
pas la
période,
toute première,
commissaire Bourrel, qui était, comment il s'appelle,
qui disait,
Raymond Souplex.
Qui disait, mais mon Dieu, c'est bien sûr.
Mon Dieu, mais c'est bien sûr.
Je ne l'ai pas celle-ci, mais justement, ça, on est
avant,
là pour ça.
C'était la période avant.
Instruisez-moi.
Mon Dieu, c'est bien sûr.
Bon, il a intervenu aussi dans Signé Furax, l'émission de radio.
Ouais. C'était Zapimax, ça.
Alors, je sais pas notre personnage mystère en l'occurrence, il a collaboré avec.
Alors, il y avait une voix caverneuse qui disait signé Furax.
Tu le fais bien, Josiane. Alors, moi, j'étais surpris de voir ce feuilleton radiophonique, puisque c'est comme ça qu'il fallait les appeler. Il y a eu 740 épisodes.
Ah oui.
Oui, mais enfin, c'était des épisodes de 5 à 10 minutes. Hein.
Oui,
c'était pas, c'était très, très court.
Mm-hmm. Bon. Les émissions étaient très courtes. Il n'y avait pas, émissions d'une heure en ce temps-là.
Et c'était au moment des repas, t'avais ça.
T'avais eu aussi L'homme à la voiture rouge.
Oui.
De Yves Jamiac. Je me rappelle, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, mais c'était L'homme à la voiture rouge. C'était toujours annoncé comme ça, quoi.
Ouais, on en faisait des caisses, quoi.
Oui, c'était la radio, hein.
Bon, et vous savez par qui c'était écrit, le signé Furax?
Ah, bien sûr, oui.
Alors?
Pierre Dac et Francis Blanche.
Alors, moi, j'avais Louis Rognoni.
C'est vrai. Oui, mais c'est l'adaptation radio, absolument. D'accord. Oui, bon. Louis Rognoni, d'accord. Dac, quand même.
Ah oui, Pierre Dac, oui.
Je me suis pas trompé surtout, quand même.
Est-ce que vous voyez l'univers dans lequel il évoluait, ce personnage mystère?
Moi, de l'émission signée Furax, il y en a plein d'acteurs. Mais il y avait Paul Prébois, il y avait Roger Carrel, il y avait je sais plus. Il y en a d'autres. Hein, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et quand ils ont fait le film, c'est pareil. Il y avait vachement d'acteurs. Hein.
Alors, le film, il était avec qui, rappelez-moi?
pense que c'est toujours les mêmes personnes, hein.
Oui.
Prébois, Roger Carrel. Ouais, il y a toujours eu c'était pas des grandes vedettes, mais déjà, Bernard Allaire, je crois aussi.
Hein. Bon, faut nous donner envie de le revoir ce film, parce que moi, signé Furax, évidemment, j'ai le nom parce que c'est de la culture populaire,
ah oui,
et je crois pas l'avoir déjà vu. Donne-moi envie de le regarder.
Ouais, ben en fait,
je l'ai plus écouté à la radio.
Je pense pas que c'était un film extraordinaire. Oui. Par contre, ce qui est extraordinaire aussi, c'est à le revoir, c'est surtout toute la liste des acteurs. Oui.
Et puis les dialogues
Je pense que c'est souvent comme ça. Il y a souvent des films comme ça où c'est des ils réunissent des copains, et puis bon, ben c'est pas forcément une grande réussite cinématographique.
Non, mais au moins ils s'amusent bien entre eux, de ça.
Alors, je suis en train de regarder la filmographie là du personnage mystère. Hein. Je vous l'ai fait voir un petit peu tout à l'heure. Ça tient pas sur une page. Si je vous dis, par exemple, Le vieil homme et l'enfant.
Ah oui,
Michel Simon,
je connais ça.
De Claude Berry.
Oui,
il y a joué en 1967. Hein. Dis bonjour à la dame en 1977.
Là, c'est moins connu, là.
Michel Gérard.
D'accord. Oui, ça c'est les. Oui, d'accord.
Si je vous parle de L'été meurtrier. Ça vous parle pas?
Si, bien sûr, avec Alain Souchon
titre,
et Elisabeth Adjani.
Oui.
Alors attends.
Oui.
Dans L'été meurtrier, il jouait ce gars-là.
Peut-être une édition plus ancienne.
Bon. Mon homme de Bertrand Blier en 1996.
Ce n'est pas ça.
Et a priori, c'est le dernier film qu'il ait tourné.
Oui, mais pas du tout.
Grosse carrière, hein. Ouais, je vous donne des titres en vrac. Hein. Et que ça saute. Hein. On est toujours trop bon avec les femmes. Ça, c'est des titres. Hein. Le viager.
Hein? Ah, Michel Serrault.
Eh ben non, pas Michel Serrault. Il a dû jouer un rôle secondaire aussi.
Pas Jean-Pierre Darras. Non, Jean-Pierre Darras, il était. Il racontait. Ouais.
Mais
non.
Ça veut dire que ce film-là, Le Viager.
Michel Galabru.
A peut-être été retourné sur une autre période. Hein. C'est possible.
Bon. Je vais vous mettre un peu plus sur la voie parce que tout à l'heure, tu as mis des mots qui allaient bien. C'était aussi un doubleur de voix.
Mais c'est pas Roger Carrel.
Eh bien, si.
Mais je te le disais tout à l'heure.
Bah oui, mais je n'allais pas te mettre sur la piste tout de suite.
Ah, Roger Carrel. Ah, formidable. Non, mais là, alors lui, par contre, le doublage, il a fait Astérix, il a fait plein de choses. Hein.
Alors, tout de suite après, on va écouter une archive sonore, justement, de Lina, et on va pouvoir entendre son interview avec quelques extraits. Hein. Et c'est vrai qu'il est connu pour moi de toutes les générations parce qu'il a aussi bien interprété des doublages sons de films américains que des dessins animés type Winnie l'ourson
puis il avait une voix très caractéristique.
Oui,
hein.
Oui.
Puis alors il savait la modifier sa voix, mais un peu comme Micheline Dax.
Mais tout à fait. C'est pour ça que Micheline Dax était venue dans
même génération.
Oui, exactement. C'est vrai que aujourd'hui Roger Carrel, ça parle peut-être plus aux plus jeunes, mais sincèrement vous le voyez comme un homme.
Dans les Astérix et tout ça, oui. il a joué énormément hein, dans les trucs, les doublages et peut-être
jusque dans les années 90, peut-être même 2000, je ne sais plus. Vous le voyez comme un homme de théâtre, comme un homme de comment vous le
non,
voyez,
comme
de
tu,
télévision
comme tu le disais tout à l'heure, touche à tout.
Oui.
Touche à tout, c'est-à-dire comédien de théâtre certainement, mais bon, beaucoup de second rôle, beaucoup de doublage et la voix caractéristique.
Ah,
on
voix,
dit, tiens, c'est Roger Carrel.
Tout à fait.
Alors, dans les doublages, précisément, moi j'étais surpris de voir, hein, il a doublé Anthony Daniels dans Star Wars. Voilà, il a doublé.
Non, mais c'est lui qui faisait. Non, mais c'est lui qui faisait la voix du robot.
Oui, aussi.
C'est ça. Oui. R2D2. Ou l'autre.
Oui.
Je sais pas parce qu'il y en a deux. Alors je m'en rappelle.
Il a doublé dans Spartacus. Non, il a vraiment été. Enfin, il devait pas s'arrêter.
Il avait une voix très caractéristique, vraiment très, très chouette.
Bon, c'était pas un physique, hein, mais où elle avait un physique de radio.
Un physique sympathique,
pas mal,
Oh, je dis ça parce qu'elle a pas l'air émoustillée, Josiane, en fait.
Non, mais parce que je me souviens effectivement surtout de sa voix. Hein, ça c'est sûr et certain. Hein.
Non, mais il a fait, c'est vrai. C'était la comédie. Bah. Mais là, il jouait dans Le Viager, mais je le vois pas, tu vois.
Non, moi la dernière version, c'était pas là-dedans.
Non,
hein.
Le Viager, c'est le film de Pierre Tchernia, ça.
Oui, c'est
mais
ça.
Je le vois pas dedans. Qu'est-ce qu'il jouait comme rôle?
Ah, ben, je confonds.
Ce sont des films à revoir. Oui. Et puis faire attention. Mais effectivement, il y a des comédiens qui sont tellement grimés parfois qu'on les reconnaît pas forcément en arrière-plan, et c'est comme ça. Dans les doublages, alors moi qui suis, on va dire un petit peu de la génération Disney, il y avait Pinocchio, il y avait le Livre de la Jungle, évidemment avec K le serpent.
Ah ouais, ouais. Sois tranquille.
Exactement.
Et puis les yeux.
Oui, absolument.
Donc Astérix en 1967. Il a Robin des Bois.
Ah ben, il faisait le serpent aussi.
C'est possible, oui. Oui.
Le serpent qui, le serpent copain avec.
Oui, bien sûr. Dans Robin des Bois, il y a un serpent.
Eh oui.
Mais qui est, c'est le traître. Enfin, c'est celui qui est, enfin, c'est celui qui est le copain du prince Jean.
Ah oui, quoi, qui va lui fourrer la langue dans l'oreille. Là, je me souviens de ça.
Et moi, il a accompagné mon enfance avec Winnie l'ourson.
Voilà. Ah bah oui. Le samedi soir.
Le dimanche matin plutôt, moi.
Ah oui, parce qu'il y avait l'émission, tu sais, Disney avec Jean Rochefort qui racontait tout ça. Ouais,
ouais. C'était... Bon, je vous propose de l'écouter un petit peu, l'interview qui doit dater de 2003, si je dis pas de bêtises. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après.
Et où vous la prenez, votre voix? Comment faites-vous?
Alors ça, c'est une chose. Je sais que c'est le problème qui vous intéresse, c'est la voix. Pour moi, je déplace beaucoup ma voix, mais alors tout à fait inconsciemment, parce que dès mon plus jeune âge, je peux dire que j'ai toujours impressionné mes camarades, même quand j'étais au collège, parce que même, je sais pas, à l'âge de 12 ans, je pouvais faire une très grosse voix et les impressionner. J'avais 12 ans, j'étais un petit bonhomme comme ça, et je pouvais dire « Dites-donc là-bas, qu'est-ce que ça est, venez-nous un peu ici voir ?» Et les malheureux étaient terrorisés parce que je pouvais déjà faire une grosse voix, comme je peux monter dans l'aigu. Mais ça, je suis totalement irresponsable. Ou voir mes parents pour ça.
Pourquoi vous n'avez jamais travaillé justement ce grand registre vocal?
Non, je l'ai fait d'abord naturellement. Quand je racontais une histoire, automatiquement les voix me venaient. J'avais beau être très jeune, je pouvais faire une voix de vieilleur, être complètement comme ça. Alors ça agrémentait mes histoires. J'étais déjà un petit peu cabot, vous voyez. Alors j'agrémentais mes histoires en colorant mes personnages. Et je dois dire que dans mon métier de comédien, ça m'a beaucoup servi. Et confiance, crois en moi. Laisse-moi veiller sur toi. Oui, tous les S. Et c'est un joli personnage qui a beaucoup plu aux enfants, d'ailleurs. Il y avait aussi les Aristochats. Une petite souris qui parlait assez brièvement. Oui, qui est un personnage un peu bref, comme ça, et rapide.
Un gros chien, la fraquette, un petit peu baraveux sur les bords, et tout ça, genre de charme.
Mais pour moi, c'est toujours savoureux. J'aime bien. Si vous étiez vraiment face aux comédiens qui enregistrent dans les dessins animés, vous voyez même quelquefois des femmes ravissantes qui font des grimaces épouvantables. Parce qu'elles essaient de reproduire la grimace qu'elles voient sur l'écran.
Et dans les Muppets, on avait fait plusieurs, je crois.
Ah oui, Kermit, la grenouille. Ha ha ha,
je peux l'âge, je peux l'âge, je peux l'âge, je peux l'âge, je peux.
Il lui arrivait les pires aventures. Il y avait également un...
Le vieux savant.
Un vieux savant, oui.
Alors, un vieux savant qui parlait comme ça, un peu comme certains personnages qui annoncent la température du matin sur certaines antennes, voyez-vous. Ce personnage m'avait inspiré.
Puis il y a des deux vieux aussi, vous savez.
Ah oui, il y a des deux vieux, oui, c'est ça, oui, un personnage comme ça, qui j'avais un œil qui sortait, comme ça, qui s'orbitait, et deux vieux, oui.
Mais Astérix, c'est un petit personnage qui parle sec, par Toutatis, par Balénos, ha ha.
Et comment, vous avez essayé plusieurs avant de choisir celle-là?
On essaie toujours de trouver la voix qui sort bien. Alors, on fait des essais, effectivement, même quand c'est une voix originale, j'entends, si on n'a pas déjà la voix du étrangère. Alors, il faut essayer de voir ce qui sort mieux. Si vous avez un personnage très rond, très...
Alors, à ce moment-là, vous êtes obligé de prendre des paires de voix beaucoup plus graves, ou des choses comme ça, pour que ça sorte de cette énorme basse, voyez-vous.
Et si on a l'impression que la voix sort bien du petit personnage, si elle est maligne, voyez-vous, si c'est une voix brève qui colle avec ce petit personnage très actif, alors on se dit, tiens, la voix colle mieux.
Alors, Mr. Magoo, c'est un personnage complètement farfelu, très bien, voyez-vous, complètement farfelu, et qui est toujours distrait, mais qui triomphe toujours de tous les écueils.
Une voix populaire.
Alors, c'est les ponts, si vous voulez. Vous avez deux sortes de voix populaires. Vous avez la voix populaire, tiens, un peu comme ça, vous voyez. C'est un truc, carrément, on en entend souvent d'ailleurs.
Voilà, et carrément une autre qui vraiment ça donne un peu plus à la boisson, comme tout à l'heure. Et puis c'est une voix commune et populaire, voyez, madame.
La séduction dans la voix, c'est quoi?
Pour moi, le charme, ce serait de vous faire ce que font les Italiens en général. Quand ils font les charmes, ils parlent toujours d'une façon très douce et très calme. Est-ce que vous êtes séduite?
Ah, parfaitement.
Très bien. À tout à l'heure.
Alors, Josiane et Jean-Jacques, ça fait du bien d'entendre cette petite voix.
Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression qu'il est toujours vivant parce que j'entends des trucs en ce moment où c'est sa voix qui double. Et donc, c'est vrai, il a une voix tout à fait caractéristique.
Et alors, moi, ce qui me fascine,
très sympathique.
Ce qui me fascine, c'est qu'effectivement, quand on l'entend, on a l'image qui va avec.
Ah oui.
Et du coup, il a vraiment très, très bien incarné les personnages.
Justement,
quoi.
Je pensais à quelque chose. Ça te dit quelque chose, toi, Mister Magoo?
Oui.
Ah bon?
Oui, oui. Le petit seigneur avec ses lunettes qui voit pas bien.
Ah bah, il a les yeux complètement fermés et puis il est complètement myope.
Bon. Alors, bah, ça me fait penser à un sujet beaucoup plus grave ce matin, c'est que j'ai croisé une personne, on va dire, relativement âgée, qui était en sens interdit dans une rue d'Angers. Donc, ça m'embête un peu pour la personne. J'espère que tout va bien
elle
pour elle.
Elle était à pied ou?
Non, en voiture. Et,
aïe, aïe. Bon,
c'est aussi pour dire qu'il faut être prudent avec les véhicules et qu'il faut savoir peut-être à un moment laisser les clés de la voiture quand on n'a plus la vision qui va bien.
Passage difficile, ça, pour beaucoup de personnes.
On est bien d'accord.
Là, ça,
en fait, le problème, c'est que là, aujourd'hui, la voiture, c'est la liberté et que sans dispenser, eh bien, c'est un peu réorganiser toute sa vie.
Ah, oui.
Les gens qui ont de la famille, il faut que la famille agisse là-dessus. Il faut que ça soit conseil.
Mais c'est pas toujours évident. Hein.
Ah oui, j'ai bien.
Bon, on s'éloigne un peu de Roger Carrel, là.
Roger Carrel, moi, j'ai un souvenir personnel. Hein. Je t'avais déjà raconté ça. En fait, il avait une maison en Charente. Hein, et en ce temps-là, j'étais à Angoulême et je tenais un magasin. Et je veux dire que à un midi où je suis en train de fermer, là, j'allais manger. Et qui c'est qui sort du parking souterrain sur la petite placette où était ma boutique? Roger Carrel qui sort. Je savais qu'il était. Je savais. Et en fait, il vient me voir parce qu'il me demandait. Il m'a demandé l'adresse. Alors, je me rappelle plus l'adresse qu'il m'a demandé. Et je lui dis, je suis content de vous rencontrer. Et donc, bah, il était content aussi parce que, je veux dire, c'était pas forcément. Il était connu, mais des
gens. Oui, c'était pas la star. Voilà.
Mais moi, je savais parfaitement qui il était. Quoi. Ouais. Je veux dire, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, forcément, avec Signé Furax, avec tous ces trucs-là et tous ces dessins animés, et toutes ces participations aux émissions de télévision. J'aimais beaucoup, surtout ses voix. Là, on vient d'entendre ça. C'est donc la palette qu'il peut y avoir. Quoi. Et comme tu dis, on voit les personnes. Quand on connaît les films, tu les vois. Tu les vois tout de suite. C'est formidable.
Mais oui, un cas du livre de la jungle. Effectivement, on le voit autour du petit homme. Il est vraiment très incarné. Et ça, c'est une grande qualité de comédien, je pense.
Je pense que c'est un des plus grands doubleurs français de tous les temps. Hein. Je veux dire que, bon, il y en a d'autres. Hein. Pierre Tornade. Mais lui, c'est surtout, comme on l'a entendu, c'est toute la palette.
Ouais. Bon.
Ça va du petit gamin, du petit machin, et du truc rigolo. Où... Alors, je pense pas qu'il ait fait de trucs vraiment dramatiques et tout ça, mais bon, mais souvent c'était des rôles de personnages qui étaient un peu légers, un peu. Souvent c'est le rigolo de service, quoi, ou le voilà.
Alors moi, ce que je trouve vraiment très très fort chez tous ces personnages-là, c'est que finalement, à être des seconds rôles, on a vu hein, dans la filmographie tout à l'heure, il n'est pas dans des rôles principaux.
Non, mais il marque.
Mais oui, mais c'est pas facile de durer en étant personnage secondaire, j'ai l'impression. Et faut vraiment avoir... Je sais pas s'il avait un agent qui l'incitait dans ce sens-là, ou s'il était totalement maître de sa carrière, mais il a fait les bons choix.
Bah, il avait du talent.
C'est ça. Tu veux dire que quand on a de talent, on n'a pas besoin d'agent?
Oh, non mais bon, il est
la polémique.
Non mais il est tombé aussi une période où on avait besoin de lui, quoi. Et je veux dire que c'est vrai que tout, avec tout ce qui s'est créé en dessin animé, en comédie, tout ça, et doublage des comédies américaines.
Oui, mais enfin, pour qu'il travaille jusque dans ces époques-là récentes, c'est qu'il avait un talent énorme, hein, parce que.
Par contre, tu vois, en doubleur, je veux dire, malgré tout, il n'est pas associé à un grand acteur. Il y a des acteurs, il y a des doubleurs qui
des
sont
rôles secondaires,
le doubleur de
ouais.
Bruce Willis, ouais, oui. Le doubleur de John Wayne autrefois,
ouais.
George Raymond ouais. Loyer, ouais. Il a tellement fait de choses,
oui.
Mais pas d'un acteur. Il n'était pas spécialiste d'un acteur, ce qu'il y a souvent maintenant. Hein,
ouais.
Les acteurs américains ont souvent une voix que ce soit. Même les acteurs actuellement, quoi. Tom Cruise ou Richard Gere ou je sais pas. Enfin,
ça doit être un beau métier, un doubleur.
Mais il faut du talent.
Mais il faut savoir rester dans l'ombre Et puis, c'est vrai qu'il faut...
Tu sais que t'as des gens qui ne font que ça. Hein, qui n'ont, moi, j'en connais un personnellement, hein, et qui, celui qui doublait Jean-Claude Van Damme, je le connaissais, j'ai eu quelques relations avec lui, et je veux dire, bah, il est présenté dans les Wikipédias comme un homme de théâtre et tout ça, mais il est surtout connu comme avoir.
Oui, puis alors, l'articulation, il faut suivre le mouvement des lèvres et tout ça, hein, pour alors, pouvoir être à côté de la plaque.
Bien souvent, justement, il y a des polémiques concernant au niveau du cinéma où on dit il vaut mieux voir le film en version originale. Moi, je veux bien, mais je veux dire que quand t'es pas bilingue ou trilingue ou tout ça, il vaut mieux que tu le vois en français. Mmh. Alors, il y a des fois, c'est plus ou moins bien fait.
Bien sûr.
Apparemment.
Ah ouais. Alors, dans les jeunes générations, je pense qu'ils ont une plus grande faculté que nous à intégrer l'anglais, mais les adeptes de la version originale qui vont regarder le film togolais, le film iranien, le film coréen en langue originale, moi, j'ai du mal à tout saisir. Hein.
Moi, ce qui me fait vachement rigoler, c'est quand t'entends, par exemple, sur France Inter, ils te font des présentations de films et ils te passent l'extrait dans la version originale. Je dis, alors, quand c'est en anglais, mais même pas, je veux dire, mais c'est quand même se foutre de tout, ouais, de soi.
Déjà,
dire,
même en anglais,
non, mais t'as pas de soucis,
s'accrocher, hein.
Sauf. Mais oui. Après, ouais, il passe quelque chose quand même, effectivement, l'intonation, on peut entendre les sentiments, on peut entendre des choses.
Et les sous-titres blancs sur un fond qui est blanc, là, voilà.
C'est on s'éloigne de Roger Carrel. Roger Carrel a-t-il fait des sous-titres, non?
Joker. Bon, il vous a plu ce personnage mystère?
Oui.
Bon. On recommence pour la prochaine émission, donc.
Alors, j'étais en train de penser à un personnage célèbre qui, bah, malheureusement, il est décédé, mais qu'on aurait entendu avec les événements qui se passent en Angleterre, c'était Léon Zitrone.
Oui. Hein,
le grand commentateur de tous les événements, bon, des têtes couronnées.
Il était trop jeune pour faire le couronnement de la reine, peut-être, mais il aurait pu.
Non, il était, parce que moi, je me souviens...
Il l'a fait.
J'avais une dizaine d'années et on avait une télévision noir et blanc à l'époque, c'était dans les années 53, et c'était lui qui commentait des trucs. Non.
Je le voyais plus jeune que ça, moi.
En direct de la basilique.
Il a pas fait que ça, je me souviens.
Il a fait beaucoup les mariages et les enterrements.
Oui. Mais et Interville. Il y a aussi des jeux avec les vachettes, là.
Je ne vous entends pas.
Bon, on va revenir un petit peu à nous. On va parler de nous. C'est nous les invités cette semaine. On attend toujours Ricardo au passage.
Il a peut-être oublié. Bon. Il s'est trompé de lundi.
Ouais. Alors, moi, cet été, ça n'intéresse personne, mais je vous le dis, j'ai déménagé. Eh bien,
t'as bossé. Hein.
Ouais, c'est pénible, hein, de déménager.
T'as changé de côté, t'as traversé le Styx.
Exactement. J'ai changé de maison et j'ai déménagé de 2 km. Mm-hmm. Mais c'est toujours embêtant parce qu'il faut toujours faire les cartons, les défaire, les transporter, voilà. Et puis, bah, comme dans toute maison, on prend ses marques.
Et savoir où on va mettre ça. Et puis après, tu mets 2 heures à retrouver en disant où est-ce que je l'ai foutu.
Bon, tout va bien, j'ai retrouvé mes enfants, ma femme, tout le monde est en bonne forme. Bon, vous avez donc fait un petit peu de tourisme cet été, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que le public y revient à un monde de confiance, ou bien on voit que les gens sont quand même un peu plus, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, ils sont un peu plus réticents à revenir à la vie collective. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais pas. Moi, je veux dire, quand on entend la radio, la télévision, on dit apparemment la Vendée, ils ont fait le plein. Mais alors, par contre, bon, c'est vrai qu'il y a eu les gros problèmes dans le Sud-Ouest avec les incendies. Hein, ça, c'était quand même les gros événements. Mais c'est vrai que les zones touristiques ont bien été. Bon, moi, quand je dis quand j'étais au Mont-Saint-Michel, c'était bourré.
Oui, par contre, j'entendais aussi les terrains de camping et tout ça. Ils faisaient le plein.
Je sais pas. Alors, savoir maintenant les lieux de spectacle, ben, on a fait les accroche-cœurs, j'étais aux accroche-cœurs, et ben, je vais te dire quelque chose, le samedi, on voulait aller voir un des spectacles sur la grande place, on n'a pas pu se garer, on est reparti.
Ah oui?
C'est la première année où ça nous arrive.
Oui.
Il n'y avait pas de place du tout. Ben, faut dire qu'avec tous les travaux et tout ça, il y avait quand même des endroits où on pouvait. On n'a pas pu, on n'a rien vu. Enfin, on a fait qu'un après-midi, c'est tout, mais en soirée, on avait l'habitude de faire un truc, un grand machin, quoi. C'est-à-dire qu'en altitude, en hauteur, où tout le monde peut voir, hein, parce que autrement, c'est difficile. Il y avait du monde.
Et cet été, c'est un peu la saison des amourettes, hein. Vous n'êtes pas tombé amoureux. Alors ça, c'est pour faire la jonction avec la chanson suivante. Hein. Alors,
nous les amoureux.
Alors, bah, c'est pas celle-là que j'ai choisie. Non, j'aurais pu mettre aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Hein, c'est Richard Anthony, je crois.
Ah
Richard
bah
Anthony,
oui.
Hein. Mais là, j'ai choisi plutôt une chanson de Claude François avec Amoureux du monde entier. À tout de suite.
Hein. Mais avec les travaux, peut-être que l'amour de ta femme a baissé.
Oh non. J'espère pas.
Amoureux du monde entier, il faut vous donner la main. Amoureux du monde entier, ce monde vous appartient. Vous seul savez vivre heureux, tous les autres ont oublié. Vous seul n'êtes pas orgueilleux, amoureux du monde entier.
C'était Claude François, pardon, avec Amoureux du monde entier, une chanson de 1966. Ça vous inspire ou pas?
Non,
non, c'est pas la plus connue. Hein.
Et est-ce que c'était une version originale ou est-ce que c'était une adaptation? Je sais pas.
Oui, non. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il faisait beaucoup de reprises, effectivement.
Bon. Non, c'est vrai que j'ai un lointain souvenir. J'ai dû l'entendre une fois à la radio, quoi, certainement. Bon, ouais. ça reste un petit peu, et puis après ça.
Bon, Jean-Jacques, on reste avec toi. C'est l'heure de nos chroniques.
Oui, alors, c'est un choix de Josiane, parce que je lui ai demandé. J'avais le choix entre trois rubriques, et Josiane m'a dit, je préférerais que tu fasses ça, alors je le fais.
Que c'est gentil.
Bon, non, mais que j'aime bien qu'on choisisse à ma place. L'arnaque des faux sites clients. Les sites frauduleux prolifèrent sur Internet avec des imitations de services clients ou administrations qui soutirent de l'argent pour des prestations inexistantes ou normalement gratuites. Ils apparaissent surtout au fil de recherche pour des démarches officielles ou des réclamations. Le tourisme est l'occasion de nombreuses arnaques sur Internet en raison de l'explosion de la demande après les confinements et de l'augmentation des incidents et réclamations provoqués par ces deux phénomènes successifs. En effet, le nombre d'internautes en recherche d'informations ou de réponses à leurs demandes a flambé ces derniers mois. Ainsi, d'innombrables escrocs sont à l'affût des requêtes pour contacter une compagnie aérienne, une agence de tourisme. Ils payent pour apparaître en tête des résultats avec une offre de solution et une apparence officielle. Mais le client se voit alors réclamer des frais d'intervention pour changer sa réservation ou obtenir son remboursement. D'autres trafiquants proposent des formalités normalement gratuites, contre 20 ou 30 euros. C'est le cas avec le formulaire européen transfrontalier de traçabilité. Ce document doit être rempli par tout voyageur dans l'espace européen pour faciliter les recherches en cas de contamination. il est évidemment gratuit, comme celui de la sécurité sociale pour la prise en charge de soins à l'étranger. Pourtant, les offres d'accès rapide simplifiées, garanties, à ces formulaires sont très nombreuses sur le web et toujours payantes. Les pires sont celles qui ne vous réclament que quelques centimes ou seulement un euro, avec piratage de la carte bancaire compris. Il est donc de plus en plus important de se méfier des résultats de recherche affichés en première place, comme des annonces. Ces propositions sont particulièrement travaillées pour paraître correspondre idéalement à la requête du demandeur. C'est souvent une tromperie, avec un service coûteux pour un résultat inexistant, ou disponible gratuitement sur le site officiel. Une précaution élémentaire consiste aussi à vérifier l'identité du site avec lequel on s'apprête à traiter. Son adresse, le contact, les mentions légales permettront facilement et rapidement de détecter une arnaque.
Merci Jean-Jacques.
Ce qu'on ne fait pratiquement pas.
Alors moi, très peu. Je le fais maintenant. Maintenant, je sais faire. Ben oui. Je sais faire. Je survole au moins l'adresse, même quand je reçois un mail. Je veux dire que je dis, c'est quoi bon, on a terminé. Non, parce que quand tu vois des trucs avec des pleins de lettres, tout ça, quand tu vois au premier abord, c'est gouv.français, enfin voilà, et tu te dis bon. Mais après, quand tu, il suffit, tu sais, avec ta souris, de survoler sans cliquer dessus, et là, tu t'aperçois que non, c'est pas du tout comme ça.
Quelque chose qui va pas.
C'est pas, ils savent.
Mais le fait est qu'ils entretiennent la confusion au maximum, et effectivement, le risque, il est à mon avis majoré sur les petites sommes, c'est-à-dire que pour un euro, les gens ils vont pas porter plainte. Hein. Au mieux, ils feront un signalement, et avant que le nombre de signalements soit significatif pour inquiéter les pirates, il se passe du temps.
Ce qu'il y a, c'est que là. Ce que j'essaye de pointer, c'est, tu te dis, je vais payer un euro. Bon, même si c'est pas grave.
Oui, mais le problème, c'est que. Il te pique ta carte.
Voilà. T'es obligé. Et là, c'est là où ils rentrent dans le truc, parce qu'ils sont bons. Hein.
Alors, pour aller dans ton sens, j'ai récemment eu un ami qui a témoigné d'un problème de 13 000 euros dérobés sur son compte.
Wow.
13 000 euros. Donc.
Mais c'est là où je comprends pas. Parce que normalement, les banques, il faut rehausser les niveaux. Normalement, moi, j'appelle ma banque pour dire parce que il y a des fois ils me bloquent.
Oui.
C'est mon fric, c'est mon argent à moi, mais ils me bloquent. Et je veux dire que.
Non, mais tu parlais des mails frauduleux, par exemple. Quand un mail contient une pièce jointe qui a un micro-programme qui vient un peu pirater ton ordinateur, quelque part, si on n'est pas suffisamment protégé, on donne accès à tout sur notre disque dur. Donc.
Oui, mais la banque normalement doit stopper parce qu'il y a, oui. y a pas. Et c'est là où il y a le problème. Hein.
Ouais, on est bien d'accord.
Normalement, la fraude peut être vachement limitée.
Mmh. Mais oui.
On est d'accord, effectivement, il y a certainement
rehausser
des...
le plafond, ça coûte. Mais même, il y a des banques même qui font facturer ça. Alors, c'est 2-3 euros, hein. Mais tu téléphones et tu dis, vous d'accord, vous allez pouvoir dépenser pendant 15 jours, 3 semaines, un peu plus que d'habitude. OK.
Ouais.
Mais autrement, on te bloque. Et ça m'est arrivé déjà d'avoir un truc refusé parce que j'avais dépassé le truc.
OK. Bon, c'est l'heure de l'autopromotion.
Moi, j'ai commencé avec moi.
Oui. Donc, on rappelle que l'UFC Que Choisir, hein, c'est une association de consommateurs. Voilà.
C'est une association qui défend les consommateurs.
Qui défend les consommateurs.
On est à peu près tous bénévoles.
Voilà.
Il y a quelques salariés. Hein.
Quelques actions de groupe.
Quelques actions de groupe. On a plein de victoires et tout ça. Et il faut venir nous voir si vous avez des problèmes.
Alors, chaque département est indépendant. Parce que ça existe partout.
Alors, l'UFC Que Choisir, c'est une association nationale,
oui.
Hein, qui est d'ailleurs en relation avec des associations européennes,
oui.
Hein, donc parce que plus on est, mieux c'est. Et c'est une réunion de toutes les associations. Alors il peut y avoir plusieurs associations, hein, dans un même département, par exemple, en Loire-Atlantique, il y a Nantes et il y a Saint-Nazaire. Mais nous, là, c'est le Maine-et-Loire, hein, donc on est à Angers, hein. Comme toutes les associations qui sont présentes là, c'est-à-dire avec France Alzheimer, on est dans le même local, un bel immeuble où on est tous réunis. Hein, on va essayer de maintenant que ça se calme au niveau du confinement, au niveau de la contamination, j'espère qu'on va faire des animations, des choses comme ça pour faire venir les gens. Quoi.
Bon.
Mais voilà, on défend le consommateur face aux professionnels qui sont parfois pas bien.
Non, tout à fait, même les banques et les voilà. trucs.
Alors, bah, tu parles d'animation, moi je vais promouvoir un peu l'association France Alzheimer 49.
Ah, bah oui, surtout cette semaine. Hein.
Qui organise dans la semaine à venir, mercredi précisément, le 21 septembre, la journée mondiale Alzheimer. Hein, donc ce sera partout en France et dans le monde. Et à cette occasion, nous organisons un grand bal populaire. Ça se déroulera dans le hall de la salle Athlétis au Pont de C. Et on vous y attend nombreux, ne serait-ce que pour danser, pour partager, on va dire, des échanges, des expériences,
un convivialité.
Et, voilà, et puis de la convivialité, parce qu'on a envie de se retrouver. Alors j'ai envie de dire, on sera tous là-bas. Josiane, tu y seras, moi j'y serai aussi.
Oui.
Donc vous pourrez mettre un visage sur la voix. Et puis, effectivement, on vous attend nombreux. Alors, l'entrée est de 5 euros, mais dites-vous bien que c'est 5 euros pour aider les familles de personnes malades d'Alzheimer et de maladies apparentées.
Et là-dessus, il y a une consommation.
Et il y a une consommation gratuite, effectivement.
En plus, comme en boîte.
Voilà, mais honnêtement...
En boîte, c'est plus cher.
J'ai envie de dire, si vous voulez vraiment nous aider, ça suffira pas.
Et les autres consommations seront payantes, bien évidemment.
Alors, pour cette animation, il y a un groupe de musique professionnelle qui vient, Mezzo Musique, qui sont d'une composition, on va dire, régionale, avec un des musiciens qui habite les Ponts-de-Cé, d'ailleurs. N'hésitez pas, venez à notre rencontre, et puis faites partager votre générosité un petit peu.
Et si j'ai bien...
rappelle, c'est quel jour ?
Le mercredi 21 septembre, mais j'ai pas précisé l'horaire, merci de me le dire, Jean-Jacques.
À partir de 14h,
et jusqu'à la fin de l'après-midi. On va pas guincher jusqu'à la tombée du jour.
Hein. Non, puis on va entendre des chansons, des choses comme ça. Pour ceux qui ne veulent pas danser, il y a d'autres...
Voilà, il y aura des classiques. Hein. Je pense que le talent des groupes, c'est précisément de s'adapter au public. Donc, si vous êtes de grands danseurs, venez, faites vos demandes et puis partagez vos talents. Voilà. Je pense que on continuera l'autopromotion sur d'autres émissions, mais là c'est vrai que la Journée mondiale Alzheimer pour nous c'est un événement. C'est aussi l'occasion de changer le regard sur la maladie parce que on voit trop souvent les personnes avancer dans la maladie, mais au départ il y a plein de choses qu'on peut faire et on peut les accompagner. Les personnes malades, les aidants, et tout ça pour que tout le monde puisse vivre un petit peu plus sereinement et un peu moins sous le fardeau de la maladie.
Vous avez fait une campagne d'affichage ou non ?
Alors c'est toujours insuffisant, on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent chez les partenaires. Mais...
Vous avez mis une affiche dans le...
Oui, à l'espace Frédéric Mistral, oui. Hein. On va écouter la dernière chanson de cette émission, alors là, qui va nous ramener un petit peu plus tard, puisqu'on est en 1986, et on va écouter Alain Chamfort. Une chanson de Alain Chamfort ?
Manu Reva ?
Ah bah non, c'est pas celle-là, c'est Trace de toi.
Trace de toi.
Ah bah ça y est, il l'a déjà, Jean-Jacques.
Oui, il me demande une chanson.
Je te donne à moi sans confession. Quand je veux t'aimer, tu glisses une larme d'émotion dans ton décolleté. Et je voudrais trouver les mots, mais je ne sais plus très bien si je dois me vouer à ton Dieu ou à tes saints. Alors sur ma peau tu laisses des traces de toi. Tout ce que je vois là dans tes yeux ne regarde que moi. Et l'amour c'est tout ce que je veux. Souvent je suis envieux de ta... sépare un jour tous ceux qui s'aiment. Si les gardiens de l'Éden me posent des problèmes, dans mon âme je veux garder des traces de toi. Toutes les larmes du ciel peuvent bien m'emporter quand ton cœur fait bang bang bang. Les tam tams africains, je les fais.
J'étais parti sur Raymond Souplex.
Eh oui, bon, c'était donc Alain Chamfort avec Traces de toi 1986. Des souvenirs, hein, quand même. Hein. Moi, personnellement, j'avais 12 ans. Ouais. J'étais pas vieux. Donc, on va bientôt arriver au terme de cette émission.
Qui
était en direct, ça c'est une première pour nous. Hein. Moi, je dis bravo quand même. Hein.
Bravo, ah,
moi,
bravo.
On est bien sur ce coup-là, je trouve. Bon, il manquait, Ricardo est pas arrivé en retard au final, il est pas arrivé du tout. Donc non, on va le retrouver très prochainement. Il a dû avoir un impératif en parallèle. On reparlait de l'agenda de la semaine à venir. Alors on va redire les choses pour la Journée mondiale Alzheimer. Je sais que dans le Maine-et-Loire, il y a beaucoup de thé dansant, par exemple. Eh bien là, en l'occurrence, je vous propose de venir nous faire profiter de vos talents. 5 euros l'entrée avec une consommation. Je veux dire, c'est une modeste somme pour vous et c'est une reconnaissance pour nous.
C'est où, c'est quand et c'est à quelle heure?
Donc c'est bien
c'est un grand pas pour l'humanité.
Exactement. C'est donc bien le mercredi 21 septembre à la salle Athlétis au Pont-de-Cé et à partir de 14h jusqu'à 18h.
Donc mercredi 21 septembre, c'est après-demain.
C'est ça.
Parce qu'on après... est en direct.
Oui,
exactement. C'est
dire,
après-demain.
Oui.
Et aujourd'hui, on a vraiment expérimenté ce nouveau format d'émission. J'espère que ça vous a plu. Le personnage mystère, aujourd'hui, je vous l'avoue, c'est moi qui l'ai choisi. Mais pour d'autres émissions, mes compères vont s'en charger aussi. Et je les mets un peu au pied levé. Mais voilà. Jean-Jacques, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi?
Non, j'essaye de savoir ce que je ferai le 21 septembre, mais je crois que j'ai mes petites filles, on va peut-être pas aller danser là-bas, j'en sais rien. Mais c'est vraiment
danser,
une bonne
petite,
c'est vraiment
pas
bien. On va voir.
Ce serait sympa, des petites Jeannettes.
Elles savent danser, ces petites filles.
Ah bah, puis, elles font que ça.
Puis il y a des danses en ligne, il y a tout un tas de choses. On n'est pas obligé d'avoir
une bonne chose,
un cavalier. Quoi.
Non, mais précisément, enfin, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on essaye d'insister, changer le regard, c'est aussi faire une société inclusive et donc au contraire mélanger nos publics plutôt que de se retrouver entre soi. C'est essentiel pour nous. Hein. On reste citoyen à partir du moment où on peut interagir avec la société, à mon sens. Donc voilà, on va se quitter sur cette information de la Journée mondiale Alzheimer.
Avant d'être coupé.
Avant d'être coupé, vous écoutez Radio G sur 101.5. C'était Il est l'heure, Monseigneur, et on va se retrouver très prochainement dans 15 jours.
Et à mercredi.
À mercredi au Pont-de-Cé. À bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez Radio G, il est 14h.